Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1.
14h-15h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, notre invité est philosophe, mais ouf, il est romancier aussi, vous verrez. Nous visiterons bien sûr une bibliothèque, celle très rock'n'roll d'Yves Bigot aujourd'hui. Nous passerons voir Anne Burzinski, notre libraire de Vaucresson. Et cette semaine, c'est Sébastien Bordenave qui fermera la boutique avec sa chronique bande dessinée. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. On avait laissé Raphaël Antoven avec L'école des dames, pastiche de L'école des femmes, de Molière. Juste avant, on avait lu son roman Le temps gagné, au-dessus duquel planait la figure tutélaire de Marcel Proust. Et voilà, Krasnaya, la ferme des animaux de George Orwell, revisitée à la sauce Antoven et surtout transposée à l'époque moderne. Depuis un grand événement nommé Table rase, les animaux sont indépendants des humains et la communauté est administrée par un anima, une sorte de président. Ils tentent ensemble de gérer leur société avec une sorte de contrat social qui interdit le meurtre pour le meurtre et permet aux herbivores et aux carnivores, par exemple, de vivre ensemble. Mais pas si simple, bien sûr, et il y a bien d'autres antagonismes entre les espèces, et donc des réflexions, bien entendu, sur notre société, mais aussi une enquête, mais aussi de l'humour, beaucoup. C'est parti pour un safari romanesque et philosophique. Bonjour Raphaël Antoven.
Bonjour Nicolas.
On cite Orwell sans arrêt, ouais. Enfin on brandit 1984 plutôt, à la moindre occasion, avec des contresens parfois d'ailleurs.
Oui.
Moins La ferme des animaux. Oui. Pourquoi, selon vous, et pourquoi avez-vous décidé de vous appuyer plutôt sur La ferme des animaux que sur 1984?
Parce que 1984 est cité à mauvais escient et il y aurait un livre entier à faire là-dessus. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une loi sur les fake news, on dit que c'est le ministère de la vérité qui revient. Or, le ministère de la vérité, dans 1984, s'occupe de la mémoire, il ne s'occupe pas de l'information. De l'information, il n'y en a pas. Je veux dire, les gens qui citent Orwell en général ou qui brandissent Orwell montrent par là même qu'ils ne l'ont pas lu. Et quant à La ferme des animaux, la raison pour laquelle ce texte est peut-être moins populaire, c'est qu'il parodie l'Union soviétique. Et que s'il y a bien un régime obsolète, s'il y a bien, c'est l'Union soviétique. Ce qui n'est pas obsolète, ce sont, comme toujours chez Orwell, les structures tyranniques qu'il met au jour et qu'on retrouve paradoxalement dans des dispositifs démocratiques. Et ça, c'est une magie commune à 1984 et à La ferme des animaux. 1984 manifeste génialement les travers de la cancel culture ou bien du gouvernement de la meute par la censure. La ferme des animaux, c'est la même chose. Et donc moi, j'étais hanté depuis des années par l'envie de soumettre, de reprendre le dispositif orwellien, donc des animaux, bien sûr, mais en essayant d'incarner non pas la tyrannie soviétique, mais l'hyper-démocratie où nous vivons. Et de voir dans quelle mesure ça résiste.
Alors moi, ma théorie, c'était que La ferme des animaux est moins lue que 1984 parce que les animaux donnent un côté Disney ludique qui fait moins sérieux.
Oui, et en même temps, chacun a reconnu la charge subversive de La ferme des animaux.
Mais au moment où c'est parti. Vous êtes posé cette question, est-ce que ça vous a peut-être même poser un problème?
Non, au contraire. C'est-à-dire que c'est comme la pornographie, vous pouvez montrer de la fornication entre animaux à des enfants, il n'y a pas de problème, personne ne vous le reprochera. L'intérêt des animaux, si vous voulez, c'est comme les persans, c'est comme tout dispositif littéraire qui vous met un tout petit peu à distance de l'objet que vous désignez. Vous vous donnez par l'étrangeté du lexique, du vocabulaire, de l'atmosphère, de l'écosystème, vous vous donnez la possibilité géniale de dire exactement ce que vous voulez sans qu'on vous le reproche. Donc c'est un artifice pour ça, pour cette raison, merveilleux. Mais c'était pas un artifice, enfin bon, on y reviendra, mais ça s'est imposé à moi, plus que comme un moyen en fait. C'était plus un moyen de narration.
Krasnaya, c'est où, c'est quoi?
Krasnaya, ça veut dire rouge en russe. Krasnaya Plochet, c'est la place rouge.
Chercher un anagramme.
Non, c'est du russe. En fait, l'idée du livre ou du dispositif m'est venue du constat qu'à Tchernobyl, enfin à Pripyat, dans la zone d'exclusion, la radioactivité étant un ennemi beaucoup moins redoutable que l'humanité pour les animaux, ben c'est une jungle. C'est une jungle extraordinaire pour les animaux. Il y a des ours, des lynx, des bisons, des serpents, etc.
Dans la vraie vie.
Oui, dans la vraie vie. Et non seulement ça, mais en plus, la proportion d'animaux albinos est considérable. Ce qui me donnait, moi, humblement, tous les moyens d'une transposition éloquente.
Mmh. L'histoire commence, la première ligne même, par un incendie,
oui.
C'est-à-dire une crise.
Oui.
Et on l'apprend un tout petit peu plus tard, en fait, un crime.
Oui.
Il vous fallait ça pour que la politique s'exacerbe comme ça et qu'on puisse distinguer le système que vous vouliez montrer.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une communauté qui, depuis qu'elle a décidé d'organiser la vie entre herbivores et carnivores, repose sur l'une des conditions de cette coexistence, c'est le déni du crime. C'est le déni du crime et c'est donc l'excuse de dévoration. Chaque fois qu'un carnivore se tape un herbivore, enfin mange un herbivore, on invoque l'excuse de dévoration.
C'est naturel.
C'est naturel, naturellement. Et donc, de sorte que le crime existe, mais la culpabilité, elle, n'existe pas. Or, il y a des cas de figure très rares, et l'incendie en est un, parce qu'aucun éclair n'a déclenché l'incendie, où il faut bien admettre qu'il y a là un crime volontaire. Ce qui confronte la communauté à l'injonction, à l'obligation de prendre en compte la responsabilité de ses concitoyens et donc d'organiser la même la politique tout à fait différemment. Donc c'est un événement qui précipite tout ce qui était en germe dans une communauté de déni. Là où le crime n'existe pas parce qu'on l'a banni, parce qu'on s'est arrangé pour le dissoudre dans des excuses, soudain le crime apparaît incontestable. Que faire de ça ?
Et le cheval Vladimir, c'est l'anima, au début en tout cas, oui, du roman, au début de l'histoire. C'est une sorte de roi feignant, donc non autoritaire en fait, plutôt sympathique, mais qui ne décide jamais de rien. Et quel est le problème avec lui ?
C'est une couille molle pris à pic. C'est-à-dire que c'est un cheval qui ne cesse de répondre « oui d'accord, mais enfin tout de même, à tout problème, à toute injonction, à toute difficulté », avec des tics de visage, une façon de faire tourner sa mâchoire qui plaisait beaucoup aux humains à l'époque. Et donc il a une façon de répondre, et alors comme il ne veut déplaire à personne dans les réponses qu'il apporte, naturellement il ne plaît à personne. Et en particulier quand il y a une crise, quand il y a un incendie, les tentatives qui sont les siennes d'éteindre l'incendie par la complaisance, par les bons sentiments, par tout ce qui recouvre l'horreur, évidemment, ça ne prend pas. Et ça a pour effet d'augmenter, d'attiser la haine. Donc c'est un personnage dont les effets, dont les conséquences de l'incurie sont aux antipodes des intentions, qui sont excellentes. Mais les conséquences, les effets, eux, sont désastreux sur la communauté des animaux.
Parce qu'on pourrait penser que c'est la recherche de la nuance.
Oui, bien sûr.
Alors,
c'est toute la différence en politique entre la nuance et la synthèse. La nuance, par exemple, pour un exemple très simple, une nuance en politique, c'est faire la différence entre le blasphème et le racisme. C'est pas pareil. C'est une nuance qui est récusée par l'emploi de ce mot islamophobie, qui est une arnaque, qui consiste à faire aux gens qui font la critique d'une religion le procès de détester ses pratiquants. Donc ça, c'est une nuance. La synthèse serait de dire « la liberté de la presse, c'est important, mais attention au respect », ce qui ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'il consiste à dire une chose et son contraire. Vladimir, il est du côté de la synthèse, pas du côté de la nuance.
Ce n'est pas le « en même temps » pour ceux qui se posaient la question, qui arrive plus tard,
qui vient plus
dans
tard,
le roman.
Qui trouve sa place.
Qu'est-ce que la concorde ?
La concorde, c'est le jour de la concorde. En fait, la communauté animale s'est formée après une guerre civile entre les carnivores et les herbivores. Une guerre civile étonnamment remportée par les herbivores qui ont reçu le soutien providentiel d'un certain nombre de carnivores intéressés, comme les faucons, quelques chiens, etc. Et Zosime, qui est le premier anima de la communauté nouvellement constituée, établit le jour de la concorde une série de dispositions légales qui prévoient en somme que les herbivores renonceront à porter plainte contre un carnivore qui aurait dévoré un enfant laissé sans surveillance, mais qu'en retour les carnivores consentiraient à la disette en cas de faible natalité. Et sur la base de sur le fond de cet accord, de cette entente, on sacrifie un sanglier mélancolique à une meute de loups et les animaux communient dans la paix. Et ensuite on essaie d'imposer, enfin de faire vivre naturellement, ces lois dans la communauté des animaux. Le problème de ces lois, c'est qu'elles reposent bien souvent sur le déni de la violence et que quand la violence apparaît, il faut composer avec.
Et tout le monde se réclame de Zosime.
Zosime l'Ancien, oui.
Ou Zosime l'Ancien. Et tout le monde aura aussi reconnu peut-être éventuellement une figure de la Ve République aussi.
Ah,
je ne sais pas. Mais justement, on va y venir avec ces ressemblances dans un instant.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
Retour dans la voie libre et retour à Krasnaïa, c'est le titre du nouveau roman de Raphaël Antoven qui est toujours avec nous. C'est aux éditions de l'Observatoire. Krasnaïa, c'est une communauté d'animaux qui essayent de vivre ensemble et qui sont confrontés à un crime non naturel, un crime pour tuer.
C'est un crime incendie, qu'on ne peut pas excuser.
Un incendie qu'on ne peut pas excuser. Maintenant, il faut réussir à s'entendre politiquement et à créer autre chose, un nouveau système. Vladimir, l'anima, c'est-à-dire le président, est submergé par les contradictions, par tout un tas de doctrines. Il y a un glossaire même des doctrines à la fin. Il y a l'albinisme, il y a l'animalisme, il y a le carnivorat, le femellisme, l'herbivorat. Enfin, tout un tas de communautés et de groupes qui ne s'entendent pas et qui parfois ne peuvent même pas discuter. C'est pour ça qu'il y a un discuteur,
absolument,
qui est un chat Qu'est-ce que c'est qu'un discuteur ?
Les discuteurs, ben, ce sont les pédagogues, si vous voulez, qui reçoivent de Zosime l'Ancien le mandat à la fondation de Krasnaya d'organiser la paix entre les animaux en faisant vivre la confrontation d'idées. C'est-à-dire que Zosime a cette intuition géniale que la paix n'est possible que par le fait d'assumer les disputes. Or, pour assumer les disputes, il faut des gens dont le métier consiste à organiser ces disputes, organiser ces contradictions, c'est-à-dire transformer les oppositions et les sentiments de savoir en contradictions et en doutes. Et c'est le métier des chats, parce que les discuteurs squattent les murets et que les murets sont plus chauds, parce que ce sont les endroits les plus chauds, donc évidemment les chats ont plaisir à se vautrer sur les murets et à répondre à une question par une autre question. Et parmi les discuteurs, il y a le discuteur en chef, Mietstadt, qui est un Maine Coon, un chat géant, qui n'a jamais cessé de grandir, parce que c'est une autre particularité de ces animaux, c'est que depuis Vzriv, depuis l'explosion native, en fait, qui a laissé la communauté à la gestion des animaux, les animaux ne meurent pas et grandissent indéfiniment. En tout cas pour certains d'entre eux. Et donc voilà, le discuteur a cette fonction d'animer les débats, d'animer les discussions, et il est lui-même un être de passion, il est lui-même un être qui a des faiblesses, et il est lui-même confronté de temps en temps à un énervement qui n'a plus rien de rationnel.
On reconnaît certains personnages, on reconnaît certaines fonctions, on a peut-être tort d'ailleurs d'essayer de les reconnaître, mais le discuteur,
ouais.
On pourrait dire c'est le journaliste, ou on pourrait dire c'est le philosophe.
C'est le prof.
Mais c'est le
honnêtement,
prof. Voilà,
c'est, honnêtement, c'est le prof.
Qui n'a pas de. Parce que dans votre livre, il a une sorte de fonction légitime, institutionnelle.
Absolument.
Dans Krasnaya.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas dans notre société, si on veut.
C'est le service public, malgré tout. Hein. Enfin, c'est la fonction publique. Mais c'est le prof. Et avec un paradoxe, parce qu'il recevant le mandat de faire vivre les gens dans la même cité, il passe bien souvent pour le défenseur de l'ordre établi, alors qu'il est celui dont le métier consiste à apprendre aux gens à penser contre eux-mêmes. Et donc il doit constamment se défendre, en particulier avec la façon dont l'opinion involue dans Krasnaya, il doit constamment se défendre d'être le gardien du pouvoir en place, alors qu'il est juste le gardien des institutions.
On reconnaît, je l'ai dit, certaines figures politiques, Macron, Mélenchon, Zemmour, Le Pen, mais pas tout à fait, ils sont des archétypes, et par une contorsion romanesque, vous faites de ces personnages de la société du spectacle des personnages de votre roman. En fait, dans les deux cas, ce sont des archétypes.
Mais ce sont des archétypes.
Comment les dessinez-vous ? Et j'imagine que vous ne vouliez pas coller tout à fait au personnage réel, sinon c'est plus qu'une chronique du temps.
Sinon, c'est plus qu'une chronique du temps et ça n'avait aucun intérêt. Non, je me suis laissé capturer par mes transpositions. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, il y avait peut-être Mélenchon en tête, Mélenchon ou Trump, enfin quelque chose comme ça, si vous voulez. Et je lui cherche un animal qui lui ressemble. Et puis, de fil en aiguille, l'animal en question, qui est un ânon, qui lui n'a jamais grandi véritablement, prend le pouvoir, en réalité, sur son personnage d'origine. Prend le pouvoir et développe une singularité qui n'appartient qu'à lui. Et ça, c'est un effet que j'ai vécu et qui m'a laissé penser, d'ailleurs, que le livre valait le coup. C'est que, à mesure que j'écrivais, j'ai été pris par mes personnages qui avaient leur existence
pareil
autonome.
Pour le lecteur.
Et alors voilà, alors ça, c'est ce que j'ignore.
Au début, on a l'image mentale du personnage qu'on reconnaît, parfois à tort d'ailleurs.
Ou oui.
Après, ça, c'est un mix, une sorte de chimère avec un corps d'âne et une tête d'humain. Et puis petit à petit, c'est un âne.
Alors voilà, c'est ça. Écoutez, si ça marche, c'est merveilleux. Parce que c'est vraiment le risque. Vous savez, Kléber Hédens avait critiqué le théâtre de Camus en disant « ce sont des silhouettes qui pensent ». Ce qui était une critique terrible pour un théâtre, effectivement, un peu trop didactique. Et j'avoue que l'une de mes hantises, c'était de produire des silhouettes qui pensent. Et si vous me dites que ce n'est pas le cas, je veux vous croire.
Alors, il y a aussi de la pensée, quand
même. Oui, bien sûr, mais celle-là n'empêche pas
l'autre. Et il y a notamment une pensée qui, moi, me fascine, qui est une pensée tocquevillienne, mais dont vous êtes un disciple, et incroyablement subtile, c'est la recherche de l'ennemi. Et il y a notamment deux périls politiques. D'un côté, il y a l'animalisme avec la taupe d'Igna comme chef de file. Et en face, l'hirondelle d'Ouraka et les albinos. C'est ça ce que vous appelez dans un chapitre, c'est d'ailleurs le titre du chapitre, le tango des antipodes.
Oui, le tango des antipodes ou la mâchoire de l'ours, ça dépend des moments. En fait, l'animalisme, si vous voulez, chez les carnivores, il y a deux doctrines en vogue. Il y a le plus-fortisme et il y a l'animalisme. Le plus-fortisme considère que la loi du plus fort doit s'imposer parce que c'est naturel, c'est une évidence. Mais enfin, la loi du plus fort, elle est réversible. Le plus fort n'est pas toujours le plus fort. Donc le plus-fortisme reste un principe démocratique, si vous voulez, qui certes sanctifie la loi du plus fort, mais n'interdit pas qu'un autre plus fort succède à un plus fort. Alors que l'animalisme a tendance à fixer les choses dans le marbre et à considérer que certains animaux sont par définition voués à commander et d'autres à obéir. Et donc le plus-fortisme est constamment sous suspect d'animalisme et l'animalisme lui-même passe son temps à s'excuser en disant « mais je ne suis qu'un plus-fortisme ». Et Face à ça, face à ce bloc de pensée, ce bloc intellectuel qu'on trouve principalement chez les carnivores, mais pas que, et dont la représentante la plus éminente, c'est Dinia la taupe, qui n'est pas exactement un animal tueur, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est sa conviction. Il y a aussi l'ours Lavka. De l'autre côté...
Oui, il est tout chétif, Dinia. Enfin, elle est toute chétive.
Oui, c'est ça.
Mais elle est toute chétive, quand même la loi du plus fort.
Dinia est en contradiction avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le corps de ses convictions. Elle n'a pas le physique de ses certitudes, ce qui ne l'empêche pas d'être extrêmement populaire. Sauf que, évidemment, quand elle se bagarre, parce que les animaux se bagarrent souvent, quand elle se bagarre, elle perd tout le temps, ce qui est un effet de la loi du plus fort que, par ailleurs, elle revendique. Et alors, surtout, en face, on a une sorte d'albinisme, ce que j'appelais l'albinisme, qui est en fait, au départ, qui est porté par Douraka, qui est une hirondelle albinos, dont la particularité est qu'elle vit son albinisme comme un destin et comme une vertu en soi. Et qu'elle interprète chaque événement de la société à la lumière de ce qu'elle voit comme de l'albinophobie. Et qui considère que la haine de la blancheur est pour cette raison un péril imminent, un péril démocratique, un enjeu, et qu'il faut sauver les albinos. Et le problème, évidemment, c'est que les deux doctrines se tiennent la main, s'alimentent l'une l'autre, en offrant l'une à l'autre la caricature dont elles ont besoin pour saper les institutions de Krasnaya, soupçonnées par l'une d'être favorables aux plus faibles et soupçonnées par l'autre d'entériner la supériorité des ordinaires sur les plus que blancs.
Et dans les deux cas, on recherche un ennemi, alors même qu'il n'y a pas forcément un...
Voilà, alors on recherche un ennemi, mais il y a des animaux qui occupent cette fonction. C'est-à-dire qu'il y a des boucs émissaires à Krasnaya, et il y a notamment les hermines. Les hermines, oui. Alors, particularité des hermines,
Elles ont été massacrées du temps des humains pour leur fourrure.
Voilà, elles ont été massacrées du temps des humains et leur massacre est un massacre qui n'a pas d'excuse, au sens où ce n'était pas une excuse alimentaire. On ne les a pas tuées pour les bouffer, on les a tuées parce qu'on aimait bien leur fourrure. Et ce massacre, cette décimation, fait que les autres animaux ont beaucoup de mal avec le martyre des hermines, dont ils ont le sentiment qu'elles l'ont emprunté pour se revendiquer, se donner des droits qu'elles n'ont pas ou qu'elles n'auraient pas dû avoir. Et alors, c'est très intéressant parce que les hermines possèdent des tas de choses, comme tous les animaux d'ailleurs, sauf que les possessions des hermines sont toujours ajoutées dans l'esprit des animaux, sont additionnés dans l'esprit des animaux. Comme les forfaits des hermines, il y a des hermines qui transgressent la loi, sont toujours additionnés également dans l'esprit des animaux. Pour qu'une hermine soit acceptée, elle devrait n'être pas riche et respecter la loi en toutes circonstances. Or, les hermines sont, si j'ose dire, des animaux comme les autres et qui, pour cette raison, commettent des erreurs ou s'enrichissent, et parfois même indûment. Et donc, l'herminophobie sert de dénominateur commun d'une certaine façon de haine spontanée aux animaux, ce qui autorise d'ailleurs certains candidats à l'animature tout simplement à revendiquer ça comme une évidence et à recevoir quantité de suffrages en retour.
Comment meurt-on de son vivant, Raphaël Antoven ?
On meurt de son vivant, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être vivant pour être en vie.
Ce sera le cas de Vladimir l'animal, le président.
C'est un peu un spoil, mais c'est vrai que le pauvre Vladimir, qui ne cesse d'être confronté aux effets de son incurie, n'a pas vu que la société changeait. Or, l'une des particularités de Vladimir, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une couille molle priapique. Et il est priapique. C'est-à-dire qu'en cas de problème, en cas de malheur, en cas de doute, il a besoin d'attraper quelqu'un. Alors c'est soit sa jument, soit son aide de camp, soit des tas de... Bon, bref. Et à tel point qu'il trouve ça plutôt naturel en réalité. Il ne voit pas le mal à la chose. Et rendu à la vie ordinaire, à la vie civile, il essaie de tâter du cul de la mulassière. Et les choses se passent différemment. Parce que Vladimir, depuis son Olympe, depuis les écuries où il gouvernait pendant deux éclipses, n'a pas vu que les temps avaient changé.
Et c'est ça, mourir de son vivant.
Il meurt de son vivant parce qu'évidemment, la sanction est à la hauteur de son inconscience.
Magnifique formule qui fait froid dans le dos. Mais ça, les formules, Raphaël Antoven, les formules qui font réfléchir, c'est un peu votre spécialité.
Je vous remercie, Nicolas.
On se retrouve dans un instant.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
Retour à Krasnaya avec Raphaël Antoven dans cette société plus ou moins imaginaire où les animaux herbivores, carnivores, animalistes, femellistes, etc., etc., essayent de vivre ensemble en créant une agora politique et des règles politiques pour vivre ensemble, avec tout ce que ça suppose de complexité et avec tout ce que ça renvoie à notre propre société. Mais Raphaël, dans ce livre et dans cette société, quelle est la place des humains ? Ils sont là sans être là.
Ah, ils sont là. Ils sont là parce que ce sont des humains qui ont fait le choix de rester avec les animaux, mais qui, évidemment, d'un commun accord, subissent tous la condition qui était celle des animaux avant. Donc, ils sont là. La plupart d'entre eux sont une sorte de service public. Donc, ils vivent dans des caves. On leur ordonne de vivre à quatre pattes. Parce que ça, c'est un décret des herbivores qui ont parié sur le fait de vivre à quatre pattes favoriserait la fornication et donc la reproduction d'humains. Or, comme les humains ont cette particularité d'être des outils, donc leur meurtre meurtre n'est pas un meurtre. Là encore, on peut dissoudre le crime. En revanche, ce sont des outils précieux. Ce sont des outils précieux parce qu'ils ont les mains préhensiles, parce qu'ils savent faire des tas de choses, parce qu'on les soupçonne de communiquer. Donc les humains sont intéressants. La question du droit des humains se pose aux consciences animales. Qu'est-ce qu'on fait de ces humains? Est-ce qu'on peut sacrifier des humains pour faire des expériences? Est-ce qu'on peut... Comment honore-t-on les humains qui sont morts quand on a construit un dispositif qui permet de retransmettre un combat dans une piscine? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces humains? D'autant qu'au milieu des humains, il y a une humaine qui est une exception, qui existe. Qui est une fermière.
Qui existe ?
Oui, elle existe. Oui. Ganna Konstantinovna, elle s'appelle. Je ne sais pas si elle est toujours en vie, mais elle existe. Ganna, c'est une fermière qui vit dans une isba pas loin de la vodka, donc à distance des quartiers animaux, mais enfin tout de même, et qui est bénie par les animaux, que les animaux adorent, et qui vit sur... dont le territoire est le seul endroit où les animaux redeviennent des animaux quand ils s'y rendent. Et donc les chiens se remettent à devenir des chiots, se mettent à japper, et ainsi de suite. Et c'est un lieu de paix qui, pour cette raison, est une source d'inspiration pour Zosime lui-même. Et donc Ganna est de toutes les humaines, évidemment, celle qui est la seule à pouvoir conserver ses droits.
Pourquoi vous n'avez pas proposé un essai pour développer les thèses que vous développez dans ce roman? Pourquoi recourir à la fiction? Parce que c'est plus marrant à écrire?
Ouais, parce que j'arrive plus à m'ennuyer. J'arrive plus à faire chier, en fait. Je n'arrive plus à réfléchir sans avoir le sentiment de pontifier. Ou plus exactement, je n'arrive plus à écrire de façon réflexive sans avoir le sentiment de faire la leçon. Je préfère raconter des histoires plutôt que faire la leçon. J'ai des choses à dire, il y a des choses que j'ai envie de dire naturellement, que j'ai envie de partager. Quand on a quelques lecteurs, on est très heureux de pouvoir écrire ça et de savoir que voilà, ça va être reçu et que c'est une suite d'une certaine manière. Mais je leur dois ou je me dois à moi-même d'abord de ne pas m'ennuyer quand j'écris, en espérant que c'est contagieux. Donc c'est la raison essentielle de la chose. Je ne peux plus écrire que de cette manière-là, j'ai besoin de raconter des histoires.
Et pour ça, vous vous appuyez sur des maîtres. Il y a 2 ans maintenant, Le Temps gagné, votre roman, s'appuyait sur Marcel Proust et À la recherche du temps perdu. Ensuite, un pastiche de Molière. Maintenant, c'est une sorte de transposition de La ferme des animaux à notre époque.
Mais je le découvre moi-même, en fait, à mesure que j'écris. C'est-à-dire que, à mesure que je ne fais plus que ça, je découvre que, bizarrement...
C'est de l'humilité, de la timidité face à la fiction?
Non, je ne crois pas. Ce n'est pas théorisé. C'est que vous écrivez les choses qui s'imposent à vous quand vous avez cette chance, quand c'est ça qu'on vous demande de faire, quand vous avez un éditeur qui vous fait confiance, qui vous suit et qui vous dit « allez-y ». Vous écrivez les choses qui s'imposent à vous et c'est comme ça que les choses se présentent à moi. C'est-à-dire qu'elles se présentent... Alors, ça me vient peut-être d'une formation... Mais les choses se présentent comme des sillages qu'on explore plus que comme des univers concrets. C'est vrai.
Justement, si on peut ouvrir la cuisine de votre restaurant d'écriture, comment écrivez-vous? Est-ce que c'est différent, concrètement, dans la pratique quotidienne de l'écriture, est-ce que c'est différent de quand vous écriviez vos essais philosophiques? Est-ce que c'est différent quand vous écrivez de la fiction? Où est-ce que vous installez?
Ce qui change pour moi, c'est le plaisir d'écrire. Le plaisir d'écrire, je l'ai toujours eu. C'est la joie d'écrire. Ça, je n'avais pas connu. Et c'est ça qui a changé. Pour le reste, le dispositif est toujours le même. C'est-à-dire que je suis un homme de l'aube. Je me réveille extrêmement tôt. Je me réveille parfois avant que d'autres se couchent. Et c'est ainsi que je vis la nuit. C'est-à-dire que j'ai une façon de vivre la nuit. Vous savez, il y a 2 façons de vivre la nuit. Vous vivez la nuit soit parce que vous êtes noctambule, soit parce que vous êtes hyper matinal. Moi, je suis un hyper matinal.
4 heures, 5 heures, 3 heures.
Oui, c'est ça. C'est des choses comme ça. C'est-à-dire que ce sont des heures où on est largement en amont de l'aube. Mais en revanche, quand on a cette chance d'être réveillé à la seconde où on ouvre les yeux, ou même avant d'ailleurs, et de n'avoir besoin d'aucune transition en réalité, le matin est vraiment votre allié. Donc dans la cuisine, ça se passe le matin.
Et vous écrivez où?
Au bureau. Où voulez-vous que j'écrive?
Au bureau...
J'ai un bureau, j'ai une table.
D'accord.
J'ai une table, un clavier...
Parce que d'autres écrivent dans les cafés, par exemple.
Oui,
à 4
heures
du matin, c'est plus compliqué.
Alors, à 4 heures du mat, les cafés, j'en ai pas. Enfin, là, il y en a, mais je n'y vais pas. C'est plus simple d'aller à mon bureau. Et puis, mon bureau est un café, en soi. Donc, c'est pas...
Avec un ordinateur ou un stylo?
Les deux, mon capitaine.
Ah bon, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que le premier jet est souvent tapé à la machine. Si j'ose dire, taper à la machine, enfin voilà.
À l'ordinateur.
Computérisé.
Et vous corrigez au stylo.
Je corrige au stylo, oui.
Vous imprimez, vous corrigez au stylo.
J'imprime, je corrige au stylo.
Est-ce que vous avez une discipline? Est-ce qu'il faut écrire tant de pages par jour ou travailler tant d'heures? Ou c'est quand ça vient?
Non, parce que... Alors, la discipline, je l'avais quand j'écrivais des essais. Et je l'ai moins depuis que j'écris des histoires, parce que le problème que j'avais quand j'écrivais des essais, c'était que de temps en temps, j'en avais marre et qu'il fallait que je continue à le faire parce que j'avais un quota à remplir d'une certaine manière par jour, un quota quotidien ou quota hebdomadaire. Là, je dois plutôt me freiner ou me retenir, si vous voulez, pour ne pas faire ça tout le temps. Donc c'est très différent. Donc j'ai juste à laisser faire les choses, en fait. Ma seule discipline, elle est de gratter le maximum de temps pour pouvoir... de disposer du maximum de temps pour pouvoir écrire sans rendez-vous. J'ai besoin de n'avoir aucun rendez-vous, en revanche, par exemple. Ça, oui, ça, c'est très important.
Est-ce que vous croyez à l'inspiration, à la grâce? Ou alors, c'est juste du travail et il faut s'y mettre pour que ça vienne?
Non, je crois à la disponibilité et à la technique. Je crois à la disponibilité, c'est-à-dire la fantaisie nous vient quand on est disponible, quand on a un peu de temps pour soi. Mais vraiment un temps profond, si vous voulez, un temps intime profond. Et derrière ça, je crois à la rencontre de la fantaisie et de la technique qui permet véritablement d'ordonner les choses. Je ne vois pas l'un sans l'autre. Les deux sont conditions nécessaires et non suffisantes.
Et comment vous échappez à la distraction, y compris de vos enfants, par exemple, ou du bruit dehors ou des rendez-vous dont vous parliez?
J'ai cette chance d'avoir une pièce hermétique au bruit. Donc c'est mon seul privilège. Et puis j'ai des enfants qui sont assez compréhensifs, je dois dire, qui sont assez sympas. Ils m'ont toujours vu travailler de cette manière-là, donc c'est pas, ils ne sont pas les ennemis de mon travail. Ils n'ont jamais eu le sentiment que mon travail m'enlevait à eux.
Et vous avez une sacrée distraction chez vous aussi, pour l'avoir visité. Je sais que vous avez une très belle bibliothèque.
Ouais.
Classée par ordre alphabétique, qui était une des rares bibliothèques visitées classée par ordre alphabétique, d'ailleurs. Mmh. Et bien justement, nous partons visiter la bibliothèque très rock'n'roll d'Yves Bigot dans un instant.
14h-15h sur Europe 1.
La voix est livre.
La voix est livre, toujours avec Raphaël Antoven. Yves Bigot a eu 1000 vies, patron de TV5 Monde, mais ancien animateur du Top 50, collaborateur de Rolling Stone Magazine. Je m'étais dit que sa bibliothèque était forcément rock. Il vient de publier aux éditions Encre de Nuit, Catherine, l'histoire d'une jeune Hollandaise assassinée sur la Nationale 347 dans les années 70. C'est un roman d'apprentissage et féministe avec l'écriture incisive et vive et rock d'Yves Bigot. C'était l'occasion de voir de quel livre il se chauffe. Bonjour Yves Bigot.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. Je m'y attendais un peu. Il y a deux bibliothèques, deux grandes, avec une dans laquelle on est en ce moment, c'est aussi votre bureau, je crois, consacré à la musique.
Ouais, exclusivement. Beaucoup de biographies, des autobiographies, quelques ouvrages théoriques, aussi sur le rock, et puis quelques bouquins évidemment de copains à moi qui ont écrit sur le sujet, Antoine Decaune, Nick Kent, Philippe Manœuvre, Laurent Chalumeau, etc. Mais oui, c'est beaucoup, et évidemment beaucoup, beaucoup de littérature en anglais sur ce sujet, parce qu'elle est tellement plus abondante que la littérature française, et puis par ailleurs, parce que c'est la source.
Il y a derrière vous tout un mur aussi de CD, une discothèque, mais ça, je ne m'en occupe pas, ce n'est pas mon rayon.
C'est en miroir.
Voilà. Mais en fait, c'est la même question que j'ai posée à Antoine Decaune, qui a aussi beaucoup de livres de musique. C'est que la musique, ça s'écoute. Qu'est-ce que vous cherchez dans les livres?
L'expérience. Alors, il y a la biographie, qui sont toujours, parce qu'évidemment, les personnages, les rockstars, c'est des personnages absolument invraisemblables. Donc déjà, rien que leur histoire, leur tribulation, c'est fantastique. Et puis le partage de ces expériences, de cette la réflexion. C'est un monde qui est tellement riche en réalité. La musique, c'est que quand on croit, parce qu'on se dit le rock, il y a bien un moment, ça, c'est fini. Mais non, c'est pas vrai. C'est le tonneau des Danaïdes. Quand il y en a plus, il y en a encore.
Mais en fait, à se demander même parfois si certains journalistes musiques ne préfèrent pas la vie et les histoires incroyables des grands musiciens, des Bob Dylan, des Clapton, des Stones, etc., que la musique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a tellement écouté les mêmes morceaux, on peut les redécouvrir en fonction des jours et en fonction de l'humeur, j'imagine. Mais finalement, ce qui vous fascine, c'est aussi leur vie.
C'est les deux. Mais l'un est l'expression de l'autre, c'est assez incontournable. Mais voilà, moi, j'aurais jamais assez de livres sur Bob Dylan. C'est-à-dire, là, il y en a deux qui viennent
c'est
de sortir.
C'est vrai qu'il y en a partout.
Et là, il vient d'en sortir encore un qui s'appelle Bob Dylan in New York, un autre qui s'appelle Bob Dylan in London. Ben voilà, je les ai commandés, je les attends avec impatience.
Mais vous apprendrez rien, vous le savez.
Mais si, on apprend toujours des choses. C'est justement, c'est ça qui est merveilleux. C'est que c'est tellement riche. Cet univers, c'est tellement incroyable aussi, on apprend toujours à chaque fois. Puis alors sur Dylan, il y a beaucoup, beaucoup, évidemment, d'ouvrages théoriques. Je vous prends un exemple, évidemment, il y a des biographies formidables, mais par exemple, Why Dylan Matters, pourquoi Dylan importe. Eh bien, c'est fascinant parce que c'est une étude par un latiniste de l'incroyable influence de Virgile, Ovide, etc. sur Dylan et Rome. Et voilà, on en apprend tous les jours. Et alors, ça peut paraître futile à certains. Juste, je rappelle, il est prix Nobel de littérature.
C'est pour ce que j'allais dire.
Voilà, pour ceux qui penseraient que, ouais, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, etc. Ben non, oui, on en a à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Est-ce que vous connaissez justement des textes de Bob Dylan par cœur?
Oui, bien sûr.
Quel est votre préféré? Est-ce que vous goûtez cette poésie comme du Baudelaire?
Oui, ouais, bien sûr. Alors, c'est absolument c'est incroyable. En même temps, c'est fait pour être chanté. Hein. Je veux dire, même s'il a des textes qui, sur la page, hein, tiennent sacrément debout, mais c'est fait pour être chanté. Et lui-même le revendique. Il dit, c'est un véhicule, parce que quand je vais sur scène, il faut que j'ai des choses à chanter. Donc, c'est pour ça que j'écris. Mais oui, bien sûr. Alors, moi, je vais vous dire deux comme ça, mais il y en a tellement. Évidemment, Mr. Tambourine Man. Voilà, c'est incroyable. Et un texte qui est moins connu, qui est peut-être plus purement poétique d'ailleurs.
Il faudra le citer.
D'accord. My love, she speaks like silence, without ideals or violence. She doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire.
My love, she speaks like silence, without ideals or violence. She doesn't have to say she's faithful. Yet she's true, like ice, like fire.
Donc c'est un morceau qui s'appelle Love Minus Zero Upon No Limit,
qui n'est pas très connu.
Qui n'est pas très connu, mais qui chante quand même de temps en temps sur scène. Ouais.
Juste un mot sur votre mur de CD, justement. Vous écoutez en analogique ou en numérique?
J'écoute beaucoup de CD. J'ai une platine vinyle. Là. Rien ne remplacera jamais le vinyle de l'époque. Parce que maintenant, le vinyle est tellement cher. C'est un produit de luxe. Je veux dire, alors, c'est de bonne qualité, mais je veux dire, c'est de l'arnaque au niveau des prix. Hein. Là, maintenant, ils en sont même à organiser la pénurie pour pouvoir justifier d'augmenter encore le prix. Je veux dire, c'est une industrie qui n'est pas raisonnable. Hein.
Et parfois, vous vous mettez devant cette immense bibliothèque de discothèques et vous regardez comme ça, comment choisir un bon livre, qu'est-ce que je vais pouvoir écouter là maintenant?
Ah oui, bien sûr.
Ou alors vous venez avec en tête l'idée de ce que vous allez écouter?
Il y a les deux. Il y a les deux. Et puis je reclasse de temps en temps, etc.
Et c'est quoi le CD qui a été le plus ouvert?
Ah, ça, je ne saurais pas vous dire, mais ça doit être un Dylan. Et j'ai tous les vinyles, hein, évidemment.
Mais là, c'est-à-dire que vous avez tous les albums, plus tous les best-of et tout ça, quoi.
Oui, bien sûr, et les albums
de
reprises, parce qu'on a
doublons.
Des tonnes,
et
etc.
Lives.
Oui, oui, puis en plus, il y a les coffrets aussi. Hein.
Mais regardez. C'est lequel qu'il faut acheter? Ah oui, en dessous, il y a les coffrets.
Ouais, voilà.
C'est Free Willing, c'est lequel l'album qu'il faut avoir absolument si on ne connaît pas Dylan? Un petit conseil, si quelqu'un nous écoute, et on va écouter évidemment du Bob Dylan.
Ouais, c'est la trilogie de 1965-1966, hein. Les albums Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited et le double Blonde on Blonde. Ça, c'est la trilogie majeure, incontournable.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme Dylan là, pour la pause?
Là, tout de suite. Alors, comme je suis sûr que vous avez Like a Rolling Stone dans votre playlist de Gold, mettez plutôt Mr. Tambourine Man.
Ça marche, mais on a tout à Europe 1, vous savez.
Oh, je sais.
Est-ce qu'on peut aller voir les autres livres, ceux que je connais un peu mieux, c'est-à-dire les romans.
La littérature, donc.
Voilà, et qui sont dans une autre pièce.
Voilà, c'est dans ma chambre, enfin, la chambre conjugale. Hein, donc. The master bedroom, comme disent les Américains.
Ça, j'aime bien quand c'est pas dans la même pièce, ça permet à Fabien Lingesson de faire des bruits de parquet.
Voilà, c'est bien, oui, parce qu'on a un beau parquet en bois.
Alors là,
qu'on a dû rattraper parce que quand on a acheté cet appartement dans les années 90, tout le parquet avait été recouvert de ciment.
Ah ouais.
Et donc il a fallu gratter.
C'était pas la tendance, quoi.
Faire revenir le.
Ouais,
le
c'est un miracle. Parce qu'il est
c'est pour ça qu'il a tendance à couiner un peu aussi.
Et donc on est passé du bureau à la chambre et il y a deux bibliothèques.
Il y a celle de ma femme, effectivement.
Donc ça, on n'y touche pas.
Qui lit beaucoup, pas forcément la même chose que moi.
Uh-huh. Et là, c'est la vôtre.
Et voilà, et ça, c'est. Voilà, ça,
est-ce que c'est classé d'une manière ou d'une autre, par ordre alphabétique ou par genre ou
C'est par ordre alphabétique. Vous avez deux rangées complètes de littérature anglaise ou américaine.
Ah oui, il n'y a que des amis, là.
Voilà. Et ensuite, vous avez trois rangées de littérature française et puis surtout beaucoup les livres de mes amis.
On voit Russell Banks, Douglas Copeland, James Ellroy, tous les grands classiques. Et puis, je vois un auteur fascinant, là, juste devant moi, Thomas Pynchon, qui est un auteur, en fait, très mystérieux. C'est-à-dire qu'on a très, très, très peu de photos de lui. Il refuse absolument toutes les interviews. Et il a une écriture, disons, pas abstraite, mais qui cherche les couleurs.
Parfois compliqué un peu.
Voilà.
C'est pas James Joyce, mais ça peut être un peu.
Qu'est-ce qu'il fait là? C'est un de vos amis littéraires aussi?
C'est en tous les cas, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Là, vous avez le gros bouquin Mason and Dixie. Le dernier, qui doit s'appeler Inherent Vice, n'est pas là parce que je l'ai donné à Bruno Patino, le patron d'Arte, qui est lui aussi fan de Thomas Pynchon, mais qui n'avait pas le
On
dernier.
On se repasse des Pynchon entre patrons de médias.
Ouais, c'est pas mal, bah oui, vous voyez,
c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous plaît chez Pynchon? C'est l'halluciné, c'est le côté psychédélique?
Ouais, et puis c'est le fait qu'il écrit comme personne, donc c'est absolument fascinant. Mais alors, je dois vous dire, mon auteur préféré, il est là.
Vous voyez, Robbins, vous avez
Tom Robbins. Alors que les gens vont confondre avec Tim Robbins.
Ah oui.
Voilà, ça n'a rien à voir. Tom Robbins.
Présentez-le nous, s'il vous plaît.
Alors, c'est un Américain, c'est un hippie. Plus ou moins psychanalyste, qui habite à Seattle, la ville la plus pluvieuse des États-Unis.
Tout en haut, à l'État de Washington.
Voilà,
la ville de Kurt Cobain, d'ailleurs.
Exactement, absolument. Et qui écrit des trucs, mais absolument incroyables. C'est formidable. Ça ne ressemble vraiment à rien d'autre. Moi, ça me touche beaucoup. C'est extrêmement intelligent. C'est fantastiquement bien écrit. Je vais vous citer, par exemple, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Alors déjà, c'est quelqu'un qui a une technique très particulière d'écriture. C'est qu'il n'écrit jamais la phrase suivante tant qu'il n'est pas absolument satisfait de la précédente.
Ah oui, c'est ce genre-là.
Il peut passer des heures, peut-être des jours, sur chaque phrase. Tant qu'elle n'est pas nickel, il ne va pas plus loin.
Il n'écrit pas la trame et puis ensuite il revient derrière pour raboter et tout. Non,
c'est non, fait non, au non, fur et à mesure. Oui, c'est évidemment un truc dont je suis parfaitement incapable. Je veux dire, même pour un document administratif. Mais voilà. Et il ouvrait un de ses livres par la phrase suivante qui est « Dans la deuxième partie du XXe siècle, le monde occidental s'effondrait de manière trop rapide pour que ça soit encore confortable, mais trop lente pour que ça soit vraiment excitant. » Et ça, moi...
C'est dans quel livre, ça?
Ça devait être, si ma mémoire est bonne, ça doit être l'ouverture de Still Life with Woodpecker, qui avait d'abord été traduit en français sous le titre de Michel Rouge, mais j'ai vu qu'il y avait une nouvelle traduction maintenant sous un autre titre.
Et c'est quoi, Still Life with Woodpecker?
C'est le plus beau roman que j'ai jamais lu sur l'amour.
Woodpecker, c'est le pivert, donc c'est comme
exactement.
Woody Woodpecker.
Woody Woodpecker. C'est le plus beau roman que j'ai jamais lu sur l'amour. Et en même temps, c'est un terroriste écologiste. Enfin, c'est-à-dire la qualité incroyable de Tom Robbins, c'est qu'il vous mélange les affaires du monde avec l'amour existentiel et avec la raison de l'existence, toutes les religions. C'est un mec qui a un savoir absolument incroyable dans tous les domaines. Il a un côté hégélien dans sa manière d'aborder... tous les domaines, c'est holistique et en même temps c'est un hippie. Il a beaucoup ses premiers articles, il écrivait sur les Doors. C'est un mec bluffant, très très peu connu en France, sauf de François Bunel qui lui l'a interviewé et l'a rencontré.
Je regarde pendant que vous parlez et en fait je m'attendais à trouver aussi de la poésie de cette époque-là, du Brotigan ou du Ginsberg ou du Kerouac, mais je
Kerouac, vous allez trouver là, Kerouac, il y en a plein. Ah. Là, regardez. Kerouac, là, il y en a plein. J'ai même le bouquin de Kerouac en français, figurez-vous.
Ah oui, parce qu'il était canadien, Kerouac.
Que j'ai acheté à Montréal, on ne le trouve que là-bas.
La vie est dommage, dommage, D'apostrophe, H-O, deuxième A-G-E.
Voilà, mais ça, c'est, en fait, c'est ses premiers écrits, mais qu'il écrivait en français, puisque c'était un citoyen américain, mais d'origine québécoise. Donc j'ai du Kerouac.
Mais pas de recueil de poèmes.
J'ai pas. Alors non, les recueils de poèmes que vous allez trouver là, j'ai du Percy Shelley. Alors c'est encore une. Ça c'est un autre de mes fantasmes.
C'est le mari de Mary Shelley.
Voilà, vous avez du. Vous voyez du Shelley. Ça c'est les romantiques c'est 19e. Anglais, Byron.
Mais c'est pour ça en fait, je vous pose la question parce que
j'ai du Rimbaud,
Dylan, etc.
J'ai Louride. Rimbaud dans la Pléiade aussi quelque part.
Je disais que vous lisiez en fait la poésie qui leur correspond quoi.
Ben,
mais non, c'est soit c'est en musique.
Ah, non,
mais lire un recueil de poésie comme ça avant de vous coucher, non.
Ça m'est déjà arrivé, mais je vais vous le dire autrement. Moi, j'ai comme base un peu, moi, c'est Molière, Balzac, Baudelaire, hein, ma base. Mais ça, c'est la base de, on va dire, l'éducation nationale. Mais dès que j'ai quitté, donc en terminale, hein, j'en profite pour dire que je n'ai pas le bac, comme Fabrice Lucchini, François Pinault, Gérard Manset, Michel Drucker. voilà.
Qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, d'ailleurs.
Exactement. Après, qu'est-ce qui a fait mon éducation? C'est le rock. Moi, j'ai lu Bertrand Russell, prix Nobel britannique, parce que Lennon et McCartney parlaient de lui. J'ai lu Nietzsche, c'est parce que Jim Morrison s'y référait sans arrêt. Et évidemment, tous les poètes de la Beat Generation, parce que Dylan en parlait, parce que... Donc, évidemment, c'est ça qui a fait que j'ai lu Grégory Corso, Gary Schneider, etc.
Vous avez pas mal de romans de Nick Hornby aussi, vous nous en parlez?
Oui, bien sûr, ouais, ça c'est... Nick Hornby, écrivain britannique, son premier bouquin génial s'appelle Fever Speech. C'est un bouquin où il raconte les tourments épouvantables d'un fan d'Arsenal. Et donc, comme j'adore le foot aussi par ailleurs, voilà. Et tous les bouquins qu'il a écrits par la suite, c'est aussi un fan de rock, etc. C'est formidable parce que là, il y a beaucoup d'intelligence et de tendresse britannique. Il y a cette espèce de côté de milk of human kindness, le lait de la tendresse humaine, qui est un truc très 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 anglais, etc. Et son dernier roman est absolument formidable, dans lequel il arrive de manière extrêmement intelligente à parler du Brexit et des conséquences du Brexit sur des couples interraciaux, etc. Voilà, c'est des gens qui sont extrêmement brillants. Moi, je suis bluffé par ces gens-là. Donc oui, j'ai tout Nick Hornby. Oui.
Je me demandais une dernière chose, c'est que bon. Yves Bigot, vous êtes connu comme journaliste, patron de médias, producteur, mais votre vie, c'est le rock. Vous n'avez jamais eu envie de tout quitter pour faire avec votre guitare, aller jouer dans le métro, essayer de percer dans le rock
J'ai compris très vite que, justement, vu les gens que j'admirais, je ne serais jamais à leur hauteur. Donc, j'ai fait le choix de plutôt... faire des jobs où je faisais la promotion de leur talent à eux, qui de toute façon serait tellement plus grand que le mien. Mais vous voyez, j'ai fini par céder puisque j'ai écrit un roman quand même.
Et donc la prochaine étape, c'est la tournée avec la guitare.
Ça, je suis pas sûr.
Pour les trains de marchandises américains.
Non, ça, je suis pas sûr. Mais le truc, c'est je partirais bien en tournée. Antoine Decaune et Laurent Chalumeau ont fait ça, hein, aller faire des lectures, comme font beaucoup les Américains, hein, de textes de leurs livres respectifs. C'est moi, je partirais bien avec mon amie Clémence Gabriel, avec sa guitare, qui elle joue très bien et chante très bien. Et elle chanterait les morceaux que j'évoquerais dans mes textes ou dans le roman que j'ai publié là, il y a quelques jours, dans lequel évidemment il est énormément question de musique et de la culture des années 60.
Très bonne idée, on viendra vous voir. Merci beaucoup Yves Bigot.
Ben, merci beaucoup à vous.
À bientôt.
À très bientôt.
Et je rappelle Catherine. Alors attention, K-A-T-R-I-J-N, c'est le titre du roman d'Yves Bigot chez Encre de Nuit. Raphaël Antoven, vous êtes toujours avec nous et vous restez là. Nous partons dans un instant à Vaucresson rendre visite à notre libraire. Tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
La Voix est libre, toujours avec Raphaël Antoven qui publie Krasnaya à l'Observatoire. Il est l'heure de partir à Vaucresson pour rendre visite à Anne Burzinski, notre libraire, pour quelques bons conseils. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas.
Alors, deux coups de cœur cette semaine encore, mais oh, mais vous trichez, il y a un essai.
Oui, j'ai un petit peu triché, il y a un essai. Mais c'est un essai qui se lit comme un roman.
Eh bien, allez-y, tout, vous avez tous les droits de toute façon. On commence par quoi ? Par le roman ou par l'essai ?
Allez, par le roman. Alors, Shuggy Bane, de Douglas Stewart. Alors, ça se passe dans les années 80, en Écosse. On va suivre notamment un petit garçon donc, qui est surnommé Shuggy, son prénom c'est Hugh. Et on s'attache énormément à lui, on va le suivre vraiment de son enfance jusqu'au seuil de l'âge adulte. Un petit bonhomme qui est énormément jugé par les autres, par ses pairs, parce qu'il vient d'un milieu déjà qui est pas évident. En fait, on pense vraiment au nord de la France, parce que c'est les terrils, les corons, les usines désaffectées. C'est un milieu qui est assez dur, et lui, pour le coup, c'est un petit garçon qui est très sensible, donc tout le monde le traite de tapette. Il a pas la démarche, il a pas les centres d'intérêt, il a pas la personnalité qui fait homme, quoi. Et donc, direct, il est catalogué. C'est un peu notre Billy Elliot, hein. Très clairement, moi, j'ai pensé à Billy Elliot, j'ai pensé à Ken Loach, il y a un petit peu de tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de lumière, parce que Shuggy, il est très proche de sa maman. Il se trouve que sa maman, elle a des problèmes d'alcool, mais c'est aussi une femme qui est très digne, qui est toujours tirée à quatre épingles, qui se maquille comme une pin-up. Elle a une espèce de dignité comme ça, pas mal d'orgueil aussi. C'est un personnage qui est un peu ambivalent, mais qui est très intéressant, finalement, comme tous les personnages, que ce soit les voisins, que ce soit les frères et sœurs. Mais c'est quand même beaucoup centré sur Shuggy et sa mère, et sur comment lui, il est aussi différent et pas accepté des autres, parce qu'il a grandi trop vite, en fait. Il surveille sa mère, il a été habitué à être plus mature que les autres. Et cette relation, elle est très belle, on sent tout l'amour qu'il y a, et c'est aussi une grosse partie du côté lumineux de ce livre qui est en trombe et lumière, en fait, et qui est splendide.
Qu'est-ce qu'elle parle bien des livres, Anne Burzinski. Shuggy Bane, Douglas Stewart, c'est aux éditions Globe. Et puis l'essai, donc ?
Et puis l'essai. Alors, pour le coup, comme on disait qu'on lit vraiment, mais vraiment comme un roman, qui s'appelle Les Grandes Oubliées, de Titou Lecoq. Moi, je voudrais la remercier, cette femme. Je la trouve extraordinaire. Elle est partie du postulat très simple, qui est que dans un manuel scolaire, même encore aujourd'hui, même encore dans les manuels actuels, sur 275 pages d'un manuel d'histoire, il va y avoir 6 pages où on parle de femmes. Donc son propos, c'est pas de dire « oui, nous on veut parler que des femmes, etc. » C'est pas du féminisme exclusif, donc qui exclut les hommes. Au contraire, elle dit « on voudrait juste une histoire mixte, on voudrait juste que ça ait à nouveau du sens, parce que là, l'histoire, elle ment, c'est biaisé, en fait. » Et donc elle est partie de cette histoire-là pour nous parler de la préhistoire jusqu'à nos jours, en s'appuyant sur des travaux vraiment d'anthropologues, de sociologues, d'historiens, etc. Donc, c'est documenté, elle ne nous dit pas n'importe quoi, ce n'est pas un truc militant on pourrait imaginer qu'il n'y a pas de matière. Non, non, c'est vraiment documenté, mais c'est drôle, c'est très bien raconté, et c'est nous parler finalement depuis tout ce temps de nos sociétés, déjà, et du rapport entre les genres, effectivement, et des lois et de plein de choses. Et c'est truculent aussi, parce qu'elle est vraiment drôle et qu'elle fait des commentaires que j'ai adorés. C'est un régal et c'est très intelligent.
Pourquoi l'histoire a effacé les femmes ? C'est à l'Iconoclaste, Les Grandes Oubliées, préface de Michel Perrault, la grande historienne, ça c'est important aussi.
C'est ça, ouais.
Et puis donc on a dit Shuggy Bane, Douglas Stewart aux éditions Globe. Merci beaucoup.
Merci Nicolas.
À bientôt Anne.
À bientôt.
Retour à Europe 1, toujours avec Raphaël Antoven. Raphaël, vous avez une librairie préférée ? Votre rapport au libraire, c'est quoi ? Vous avez fait, j'imagine, beaucoup de rencontres
J'ai fait beaucoup de rencontres chez les libraires, bien sûr. Mais moi, je suis un animal de librairie. Donc, j'adore y aller, je fouine, je chine. Non, je ne chine pas. Je ne négocie pas. J'achète le prix, c'est l'intérêt du prix unique du livre. Je suis un grand consommateur de livres. J'ai développé avec les années et l'expérience une certaine connaissance des livres pour enfants maintenant, selon les âges. Donc je fréquente beaucoup plus les librairies pour enfants. Quelques-unes. Alors voilà, il y a les Jardins d'Alice par exemple, rue Daguerre, le magasin de BD Bulle de Salon, rue Daguerre également, ou alors Chante-Livre évidemment, qui est merveilleux. Mais il y a des librairies merveilleuses en province. Il y a des librairies merveilleuses partout. La première qui me vient à l'esprit, là, c'est à Mulhouse. C'est une librairie géniale. 47 degrés nord, dont je garde... Enfin, une rencontre là-bas dont je garde vraiment le meilleur souvenir. Puis j'aime les grandes librairies. J'aime Kléber, évidemment. J'aime
Mais c'est
Sorrent,
quoi ? Pourquoi 47 degrés nord ? C'est une librairie de 47 voyage ? Degrés Pourquoi ? C'est parce que non, les libraires sont fantastiques ?
Parce que les libraires sont fantastiques. C'était une soirée autour d'un de mes livres, peu importe, mais la façon dont ils avaient organisé les choses, les témoignages, les enregistrements qu'ils avaient pris, cette liberté qu'ils s'étaient donnée, parce que comme ce n'était pas public, d'une certaine manière, on pouvait jouer avec tous les enregistrements du monde. Et c'était formidable. C'était une telle passion pour les livres et si communicative, on la trouve dans les librairies, ça c'est sûr. Moi, j'aime cette expertise, l'expertise des libraires dans tous les domaines. Et c'est un lieu où je me sens bien, voilà, tout simplement.
Alors, il n'est pas libraire, il est chroniqueur BD, mais il est réellement fantastique.
Ah ouais.
Sébastien Bordenave nous rejoint. Et bonjour Sébastien.
Bonjour, bonjour à tous.
Deux bandes dessinées, comme souvent, avec vous deux bandes dessinées en trois minutes, c'est quasiment un exploit. Allez-y, je vous en prie.
Jérusalem, 23 mai 1960, David Ben-Gourion annonce à la tribune de la Knesset que l'un des principaux criminels de guerre nazis a été arrêté et qu'il sera jugé en Israël. Il s'agit d'Adolf Eichmann. C'est ce que raconte cette BD, L'enfer est vide, tous les démons sont ici, publiée chez Glénat. Compliqué pour une BD de faire ressentir l'enjeu historique d'un moment aussi important, mais c'est réussi. L'accusé Eichmann doit répondre de 15 chefs d'accusation, dont crimes contre l'humanité. Eichmann, c'est le principal responsable de la mise en œuvre de la solution finale. 8 mois de procès intégralement filmé alors même que la télévision n'existe toujours pas en Israël. L'album met en scène la célèbre journaliste juive allemande Anna Arendt qui s'échauffe avec le rédacteur en chef d'un journal local. Il lui reproche de donner raison à Eichmann quand ce dernier définit son rôle comme purement administratif. Dans la BD, on découvre ou redécouvre les arguments de la défense, les témoignages poignants des survivants de la Shoah, alors même que la peine de mort a été supprimée en Israël en 1954. Je spoil, Eichmann va être pendu en 1962. Ses cendres sont dispersées en Méditerranée, selon sa volonté. Sur le bateau, juste avant de les jeter, un homme confie « Je suis stupéfait de voir le peu de cendres du corps d'Eichmann. Quand je suis arrivé à Birkenau, il y en avait une montagne, un album pas anodin, mais passionnant. L'enfer est vide, tous les démons sont ici. » La phrase à l'origine est de Shakespeare. Je vous l'offre, Raphaël Enthoven. Plaisir d'offrir, joie de recevoir.
Merveilleux, joie de recevoir. Je prends, merci.
L'enfer est vide, tous les démons sont ici.
C'est chez Glénat.
Magnifique. Deuxième bande dessinée, rien à voir, plus léger.
Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. C'est du grand spectacle, de l'humour absurde. La deuxième BD, c'est la dernière BD de Donjon Monster, La bière supérieure, tome 14. Alors 14, ça veut dire que c'est pas le premier. En fait, il y en a eu plus de 45 des Donjon Monster. Donjon, c'est une série inventée par Johan Svarr et Lewis Trondheim. Mmh. Mais à chaque fois, l'histoire se suffit à elle-même. Attention, je préviens, c'est de l'héroïque fantasy survitaminée. C'est totalement addictif. Donc si vous voulez lire tous, prévoyez un bon budget ou alors rendez-vous à votre médiathèque la plus proche. Accessoirement, c'est l'histoire de Bonnie, une serveuse d'auberge qui va devenir commerciale en bière et rencontrer beaucoup de succès. Elle va tellement réussir que le tavernier va devoir embaucher de la main-d'œuvre immigrée pour faire encore plus de bière, mais il hésite parce qu'il est également maire et que ça risque, selon lui, de faire descendre sa cote de popularité. Petit clin d'œil ironique à l'actualité. Et grand bonus de cette BD, si vous téléchargez sur votre smartphone l'application Delcourt Soleil, la BD devient en réalité augmentée. Ça veut dire que si vous mettez votre téléphone en mode photo, apparaissent alors les esquisses de la BD, des brouillons. C'est le top pour les fans que vous allez tous devenir si vous découvrez cette BD.
Admettons. Merci Sébastien, vous nous rappelez les deux titres.
Allez, aux éditions Delcourt, Svarr, Trondheim et Quignon, Donjon Monster, La bière supérieure, et chez Glénat, L'enfer est vide, tous les démons sont ici, de Marie Bardiot-Vaillant et Malo Kerfriden. Comme à chaque fois, on se quitte sur une citation BD.
J'adore.
Elle est de Johan Svarr, justement. Il a dit « Dessiner le nu sans désir, c'est sans doute ça, devenir un professionnel.
» Raphaël, vous lisez de la bande dessinée aussi ?
Oui, bien sûr, j'adore ça.
C'est-à-dire, c'est quoi vos maîtres vous lisez ou vous êtes un spécialiste ou alors vous...
Non,
c'est vraiment de la BD.
Non, je ne suis pas un spécialiste, je suis un ancêtre. Je me nourris d'Hergé, je bois Astérix, je fonctionne comme ça. J'ai de vieilles, d'antiques références et elles me suffisent largement. Sauf là, évidemment, là je découvre cette merveille, L'enfer est vide, qui rappelle Maus de Art Spiegelman. Mmh. Et donc voilà, donc, évidemment, il y a des BD qui sont des chefs-d'œuvre.
Et il y a des liens d'ailleurs avec Krasnaya, c'est votre nouveau roman à l'Observatoire. Merci beaucoup Raphaël Enthoven.
Merci à vous.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.